que Dieu me soit en aide. Mais j'ai été fortement encouragé parce que mon texte était prêt il y a 2 jours par 2 versets de la parole de Dieu à ce que je le délivre tel que je l'avais préparé. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré mon beau-frère. On a déjeuné ensemble à Saint-Malo. Et il avait au poignet un engin, une montre connectée. Waouh! Incroyable! Une merveille de technologie. Il avait la météo. Il avait ses mails. Il avait le nombre de pas qu'il faisait. Encore les calories, enfin, il avait tout, quoi. Évidemment, l'heure, les secondes, c'était impressionnant, impressionnant. Nous nous servons d'objets connectés, hein. J'en ai un dans ma poche, que Jean-Marc soit rassuré, il est éteint. Hein. Mais nous avons tous de ces objets utiles. Mais il peut arriver, par une erreur de manipulation, qu'on soit en rade, et le constructeur nous propose alors de faire ce qu'on appelle un reset. Okay ? Sorte de remise à zéro de l'appareil, une réinitialisation, ce qui a pour conséquence de tout effacer et de repartir sur des bases constructeurs d'usine. Toute proportion gardée, ce n'est là qu'une image, mais l'Évangile propose des recommencements. Le recommencement est possible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, nous connaissons tous ce verset, nous l'aimons. Et nous avons raison de l'aimer. Alors mon propos ce matin s'adressera d'abord à quelqu'un qui peut être, ou à plusieurs, quelqu'un qui n'a pas fait encore cette expérience de naître de nouveau. C'est une expression spirituelle, évangélique, mais mon propos peut également s'adresser à un frère, à une sœur, à l'un d'entre nous, qui aurait besoin de guérison pour repartir sur des bases nouvelles, assainies, pour pouvoir recommencer. Je veux vous parler ce matin, le Saint-Esprit m'accompagnant, je voudrais vous parler ce matin de Jésus médecin. D'accord ? Alors, 2 lectures s'imposent. Jérémie, chapitre 8, le verset 22. On peut même prendre le verset 21. « Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. » Il était question de Jérusalem. « Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. » N'y a-t-il point de baume en Galaad ? N'y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ? Amen. Et puis un deuxième texte, pardon, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 12. Matthieu chapitre 9, verset 12. Jésus, les ayant entendus, c'est-à-dire des pharisiens, dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » D'autres versets nous disent, Luc 19, chapitre 10, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et un autre verset dans la lettre à Timothée, 1 Timothée chapitre 1 verset 15, nous dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Chers amis, notre destinée n'est pas la tombe. Mais la plus grande des guérisons dont nous ayons besoin est avant toute chose la guérison de nos âmes. Alors, je vais apporter une précision. S'il se trouvait parmi nous quelqu'un qui souffre physiquement, quelqu'un qui soit malade, Jésus n'y est pas indifférent. Je crois qu'on l'a d'ailleurs entendu tout à l'heure. Jésus n'est pas indifférent à nos souffrances. Ses serviteurs non plus. Aussi, vous n'hésiterez pas à aller à Jésus pour demander votre guérison. Et je crois que Jésus, qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, peut encore opérer les mêmes miracles et nous accorder la guérison. Vous le croyez ? Moi, je crois que Jésus guérit aujourd'hui. Et s'il ne m'avait pas guéri, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Ça, c'est un fait bien clair. À 40 ans, c'était fini pour moi, mais Jésus m'a guéri. Gloire à son nom. Vous n'hésiterez pas donc à lui demander votre guérison, et si vous allez à lui avec sincérité de cœur, avec honnêteté, il vous guérira. Et vous en rendrez témoignage ici. Et on dira, Alléluia, gloire à Dieu. Jésus guérit. Ça ne laisse pas non plus indifférents ses serviteurs, l'Église, et l'on peut prier pour ces malades. Je crois en l'efficacité de la prière de l'Église. Et nous avons bien fait tout à l'heure à être conviés de prier pour quelques personnes. Mais n'inversons pas les priorités. La priorité, c'est le salut de nos âmes qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu, car ces âmes ont du prix. Jésus, d'ailleurs, en fixait la chose. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Ce n'est pas d'une migraine passagère, d'un rhume saisonnier, mais d'un mal plus grand dont Jésus veut tout d'abord nous guérir. Les versets cités, il y a un instant, nous parlent d'être sauvés, c'est-à-dire qu'ils mettent l'accent sur l'ampleur du mal dont les hommes sont atteints. Opéré d'un cancer de la peau, il y a 10 ans de cela, Il y a eu d'abord une première intervention en surface. Et puis, un vendredi soir, il était tard. Téléphone du dermato. Puis, dans toute une phraséologie, était en train de m'annoncer qu'il y avait un cancer. Mais je ne comprenais pas. Je lui ai dit, écoutez, docteur, c'est bien gentil tout ce que vous me dites, là, je ne comprends pas. Parlez-moi clairement, simplement. Et il me dit, mais voilà, vous avez un cancer, il faut qu'on opère tout de suite. Bravo. Bon. Ça, c'était le vendredi soir. Le lundi, je passe en clinique pour déterminer les choses. Et le mardi matin, j'étais opéré. Il y avait urgence. Eh bien, je dis que peut-être pour un ami ou plusieurs parmi nous, il y a urgence à ce que Jésus, médecin, intervienne pour les sauver de la perdition éternelle. Car tous les hommes sont atteints de ce mal qui se nomme péché. Il est dit de ce péché dans Hébreux 12, verset 1, qu'il nous enveloppe si facilement. Il y a une traduction, celle de M. Twain, qui emploie un autre terme, qui ne dit pas qu'il nous enveloppe si facilement, mais qui nous enlace si facilement. J'aime beaucoup l'image. Ça me fait penser à ces gamins, ces enfants. Hein. On est là, on est en famille, on est content, on est heureux, quoi. Puis tout d'un coup, il y en a un d'eux qui vient par derrière vous sans rien dire et puis qui tout à coup, hop, hein, ça vous est arrivé. Et vous êtes surpris, vous. Quoi, presque peur, vous êtes surpris. Le péché peut surprendre, nous surprendre. L'abondance de contenu de toutes sortes qui nous arrive par le moyen des médias peut très vite, par surprise, troubler l'enfant de Dieu, entraîner le chrétien loin de la pensée de Dieu. Par l'effet de surprise, nous pouvons pécher. Alors, ce n'est pas en vain que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas fortuit, qu'elle nous exhorte à veiller et à prier. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, c'est dire que le danger est grand. La guérison de l'âme est de loin la plus importante. Un prédicateur qui ferait de la guérison son cheval de bataille en négligeant d'annoncer le salut des âmes commettrait une erreur grossière. Jésus est venu pour guérir nos âmes. Il est venu pour guérir l'homme de ce mal qu'est le péché. Le péché blesse, le péché meurtrit et tue le pécheur. Il conduit tout droit à la mort spirituelle, d'où l'expression fausse de destruction d'où l'on ne revient pas. C'est une erreur. C'est une erreur que l'on croit que l'on peut s'arranger avec Dieu. Quand un être cher vient de nous être enlevé, l'on ne peut plus rien pour cet être cher. Il faut que ce soit bien dans notre esprit, d'où l'urgence de prier comme nous y avons été exhortés pour ceux qui nous sont chers, avec lesquels nous avons un lien, lien que nous devons entretenir. Nous avons des amis qui, cet été, ont perdu subitement leur fille. Et c'est la deuxième fille qu'ils perdent dans des circonstances difficiles. Ça nous a, Agnès et moi, marqué évidemment, nous étions en vacances et ça nous a quelque peu attristés pendant quelques jours, d'autant que nous ne pouvions pas nous déplacer pour être près d'eux. Ces personnes, toutes vraies, toutes sincères qu'elles sont dans leur foi, ne peuvent plus rien pour cette fille que Dieu a reprise. C'est terrible. Passé cette limite, il est dit, après la mort, vient le jugement. L'on posa à Jésus la question de savoir si des Galiléens qui avaient souffert sous le règne de Pilate étaient de plus grands pécheurs qu'eux. Alors la réponse fut, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. On doit annoncer qu'il y a lieu de se repentir de ses péchés, qu'il y a lieu de faire la paix avec Dieu et que c'est de son vivant et que ce n'est pas lorsque l'on est entré dans l'éternité que la question peut être réglée. Il n'y a pas non plus de comparaison à établir comme voulaient le faire ces Galiléens, à savoir qui était meilleur. Je n'ai pas de comparaison à faire avec mon voisin de chaise, ma voisine de chaise, pour savoir qui a le plus péché de nous deux. Cela regarde chacun, il est vrai. Nous avons à nous examiner chacun pour sa part. Le péché nous atteint depuis que nos premiers parents ont transgressé l'ordre de Dieu en mangeant du fruit défendu de l'arbre de la connaissance. Hein, le livre de Genèse, tout le monde connaît. Satan d'argumenter d'ailleurs, Dieu sait que au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Satan se gardant bien de leur dire qu'il connaîtrait le bien sans avoir la force de l'accomplir et qu'il connaîtrait le mal sans pouvoir le dominer. Cette connaissance du bien et du mal, nous l'avons. Paul l'exprime clairement. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. C'est clair, hein ? Nous ne portons pas la faute du péché originel, mais nous héritons de la tendance à pécher. Cette tendance est inscrite dans nos gènes. Nous pouvons parler d'atavisme. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. Et la conséquence, c'est la mort. Les Israélites se posaient la question donc de savoir s'il y avait un baume, une pommade, un remède et un médecin pour soigner la fille de Jérusalem. T'es-tu posé la question, mon ami, de savoir s'il y a un médecin capable de te soigner, de te guérir? T'es-tu posé la question? Jésus est ce médecin au diagnostic sûr et de pouvoir te prescrire le remède efficace. Alléluia. Nous avons ce médecin. Il ne faut pas hésiter à le consulter. Hein. Nous avons ce médecin. Ésaïe 53:12 nous dit, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Par sa connaissance. Ça a été pendant un temps une énigme pour moi, jusqu'à ce que je comprenne qu'il s'agit de la connaissance de l'homme de la femme. Jésus a eu faim. Jésus a eu soif. Les évangiles sont là pour nous le rapporter. Jésus a éprouvé le besoin de se reposer. En venant sur la terre des hommes, Jésus, le Fils de Dieu, devient homme de terrain. Alléluia, il devient homme de terrain et acquiert de la connaissance par expérience. À la croix, Jésus souffre l'injure. Il connaît l'abandon des siens, de ses plus proches, de ses intimes. Il connaît le mépris, on lui crache au visage, on l'injurie, il encaisse les coups. Et pour finir, il endure les souffrances d'une crucifixion. Il souffre la crucifixion pour nous sauver. Jésus, le Fils de Dieu, fait homme, expérimente la méchanceté des hommes et les angoisses de la mort. De tous ces maux, Jésus veut nous délivrer. Ça vaut la peine d'en parler de Jésus, n'est-ce pas ? Moi, j'y prends plaisir ce matin. Il est magnifique, il est merveilleux. Il est tout puissant. Alors, avant toute chose, il est nécessaire, hein, vous le savez, quand on est malade, qu'il y ait un diagnostic juste qui soit posé. Hein, c'est tout bête, mais il faut qu'il y ait un diagnostic de posé. Les Saintes Écritures, d'ailleurs, nous mettent en garde contre cette fâcheuse tendance d'avoir une trop bonne opinion de soi et de cette manière d'ignorer que nous sommes malades. Je vous l'ai dit déjà, mais je le redis. À 20 ans, je pensais que moi, Guillaume Jean-Louis, si je n'étais pas sauvé, qui le serait ? Il y en a qui sourient, mais je pensais que si je n'étais pas sauvé, moi, Guillaume Jean-Louis, parce que je pratiquais des œuvres, parce que j'essayais de mener une vie droite, quoi. Si je n'étais pas sauvé, qui le serait ? Quel orgueil ! Croyez-moi, un jour, Dieu m'a rattrapé, m'a interpellé, et il m'a dit, mon garçon, tu es bien malade. Tu es bien malade, mais vraiment, tu es malade. Quand on sous-estime l'importance de son mal, nous pouvons être tentés de recourir à l'automédication. On va prendre un petit comprimé, là, un petit effervescent, et puis hop, ça va aller mieux, on se soigne soi-même. C'est à Jésus qu'il revient de poser le diagnostic et de nous dire quelle est l'ampleur de notre mal et de nous prescrire le remède. Un soir de juin 1972, c'est ce qui s'est passé pour moi. Dieu m'a montré mon mal. Il m'a dit que j'étais bien malade. Et il m'a dit le remède, le voilà. Prescrire le remède efficace. Heureux l'homme que tu reprends et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur. Les interventions de Dieu ont marqué la vie du peuple d'Israël et nous sont données à titre d'exemple. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, tiens, et il les guérit et les fit échapper de la fosse. Psaume 107, verset 19. La parole de Dieu, mon ami, sera pour ton cœur malade, déprimé, condamné, la médication adéquate. La parole de Dieu sera la médication adéquate. Alors, il faut parfois inciser. Vous savez, c'est alors que le médecin devient chirurgien. Car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchant qu'un bistouri quelconque. À deux tranchants, pénétrant cette parole jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, Hébreux 4, versets 12 et 13. Oui, Dieu a besoin parfois d'utiliser cet instrument, ce bistouri, pour enlever l'organe malade, la tumeur, le kyste douteux. Il faut l'instrument adéquat entre les mains expertes. Jésus, la parole faite chair, est ce médecin chirurgien. Alléluia. Et ce médecin chirurgien. Alors, quand il y a une plaie, quand il y a opération, il y a un bon nettoyage qui est nécessaire. D'accord. Nettoyer est indispensable. Indépendamment du sang de Jésus qui, dans un premier temps, nous purifie de tout péché, c'est ce qui est écrit, le sang de Jésus nous lave de tout péché, de toute souillure. La parole de Dieu est un antiseptique efficace qui favorisera la cicatrisation. La parole de Dieu. Le cœur ayant été assaini, déjà vous êtes pur, dit Jésus. Dans sa prière dite sacerdotale, adressée à son Père, il dit : Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole a le pouvoir, a ce pouvoir antiseptique. Ce dernier verset met en évidence l'importance de cette parole dans la vie du croyant et la nécessité d'en être imprégné. Nous devrions y faire quotidiennement référence. Alors, la plaie nettoyée, puis refermée, il y a la convalescence. Voilà. Il y a des maux du passé qui sont longs à guérir. Ce peut être une enfance marquée par l'absence d'un père ou d'une mère. Le père a été absent, la mère a été absente. L'absence d'affection. Ce peut être des deuils, des séparations brutales, comme pour ces amis que j'ai cités. Ce peut être les violences subies, les frustrations de toutes sortes, les échecs scolaires, les licenciements injustes, les faillites, les tromperies, les incursions dans le domaine de l'occultisme, de la voyance, on le fait par jeu pour commencer. Ou on est imprudent, on fait comme cela, oui, pour rire, pour s'amuser avec d'autres. Et on est en train de se lier avec l'adversaire de nos âmes, de se ligoter. Tous ces maux engendrent des blessures et des souffrances que l'on porte en soi. Jésus veut guérir. Veut guérir, penser ses blessures, nous délivrer de ses souffrances. Si quelqu'un est en Christ, il va s'afficher à nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est une réalité que l'on ne saisit pas toujours, alors que la guérison, écoutez-moi bien, la guérison nous est acquise. Elle est effective. Notre passé coupable, douloureux, ne peut plus nous être opposé si nous l'avons confessé à Dieu. Et nous sommes en droit d'attendre de sa part, de la part de Dieu. Nous sommes en droit d'attendre de la part de Dieu à partir de là une restauration complète, définitive. Dans Ésaïe 53,5, il est écrit « Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, littéralement, et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. » C'est acquis. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est acquis. Le verset 4 qui précède « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » C'est chose faite. Si je lis, si j'applique à mon cœur ces paroles, si je les prends, c'est chose faite. Il y a des convalescences plus ou moins longues, mais la guérison nous est acquise. Alléluia, gloire à Dieu. Toutes nos guérisons, et la guérison de tous nos maux. Le remède que nous applique le Seigneur n'est pas un remède de bonne femme. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche, par tes ordonnances, par tes prescriptions, je deviens intelligent, sage aussi, je déteste toute voie de mensonge, de fausseté. C'est véritablement une nouvelle vie, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de penser et d'agir. L'on se surprend par les réactions que l'on a. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça a été tellement brutal pour Agnès comme pour moi que dans les jours qui ont suivi, on s'est dit, mais oh là là, si on a un patron difficile, exigeant, vous savez, des fois, il y en a qui ne sont pas drôles, hein. Alors, on a envie de tout faire voler, quoi. On a envie de répondre, on a envie de se rebeller, mais on s'aperçoit que on écoute, on fait ce qu'il nous demande, on ne dit rien, on sourit, on reste aimable. Pas de réaction violente. On garde la même humeur, la bonne humeur, toute la journée. On est aimable avec les collègues, même si ceux-ci nous font du mal. On se surprend à être différent. Ça, je peux vous dire que c'est chouette, c'est beau. J'ai bien aimé ce temps-là. Il y a un avant-conversion, il y a un après-conversion et les changements qui se sont opérés en nous nous font porter ce qu'on appelle des fruits. Et ça, c'est bon, les fruits de la repentance. Quand vous avez un bon mal de gorge, alors, il y a un remède qui est de prendre du lait chaud avec du miel, si possible de Christine. Hein. Rechantant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. La parole de Dieu est ce lait spirituel et pur. Et encore, psaume 109, verset 103, « Tes paroles sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris qu'ils lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je les ferai entrer dans ce bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » C'est l'éternel Dieu qui parle. Vous avez la gorge, la bouche en feu, parce que des paroles d'amertume, d'agressivité, de haine sont là. Elles sont dans votre cœur, mais vous avez envie de les exprimer. La parole de Dieu a capacité à calmer ce feu, voire à vous apporter une guérison définitive, si vous le désirez, bien évidemment. Autre parole pour ceux qui dépriment. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tiens, du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, c'est-à-dire suivez mes prescriptions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le ciel n'est pas en déficit à l'instar de la CPAM. N'ayez pas de scrupule à demander à Jésus de vous prescrire du repos. N'hésitez pas à lui demander de vous prescrire du repos. C'est parfois nécessaire. Si vous vous sentez déprimé, surtout, n'allez pas jusqu'au burn-out. As-tu besoin de guérison ? As-tu besoin de repos ? C'est à Dieu de poser le diagnostic. C'est à Dieu de te prescrire le remède, le baume. Et s'il faut que tu aies du repos, c'est aussi à Dieu de te le prescrire. N'attendez pas d'y être contraint. Agnès pourrait témoigner de ce qui lui est arrivé il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, où elle allait droit dans le mur. Je lui ai dit par deux fois, tu vas droit dans le mur. Elle a persévéré. Ah oui. Et un beau jour, Dieu l'a arrêtée. 7 mois dans le canapé, sans en sortir, parce qu'elle est tombée sur les deux genoux et qu'elle a déclenché une algo-neurodystrophie. Ça a été long, mais c'est aussi là qu'elle a connu des moments bénis. Mais vaut mieux pas que Dieu nous impose le repos. Il faut être sage et il faut le prendre quand c'est nécessaire. La parole de Dieu dit que si nous manquons de sagesse, il nous suffit de lui demander simplement, que j'aime ce passage. Alors je vais terminer, cela revient à dire, parce que, oui, il est bon de conclure, j'ai dit assez de choses, simplement, il est vrai. 1. Ne pas hésiter à consulter Jésus. Alors vous allez dire, oui, mais je le veux, mais c'est pas facile, l'attente est longue. Cette argumentation est fallacieuse. Elle est mensongère. Elle ne tient pas la route. Si tu as le désir de rencontrer Jésus, mais si vraiment tu as le désir dans ton cœur de le rencontrer, ce peut être aujourd'hui, en cet instant, dans ce lieu. Jésus consulte 24 heures sur 24 et se déplace aisément. Ça, je l'ai lu aussi dernièrement. Il se déplace aisément. Ce n'était pas dans une version habituelle, mais il se déplace aisément. Tiens, car il se veut proche des hommes, de manière générale, et des chrétiens en particulier. Ne nous a-t-il pas fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin ? Je sais pas, c'est écrit. Il se veut avec nous. Si quelqu'un désire régler la question de son salut et être délivré de son péché qui pèse sur son cœur, qui empoisonne sa vie, c'est aujourd'hui. C'est peut-être dans ce lieu, en cette heure. Et puis, deuxième point, pour conclure, écouter son conseil et s'y tenir. Le remède, le baume, le collyre sont dans la parole de Dieu, parole que Dieu a confiée à des hommes, ils appellent les scribes, qui ont eu l'honnêteté de transcrire cette parole avec soin et de la transmettre de génération en génération. Cette parole de Dieu a traversé les siècles, nous l'avons entre nos mains, d'où les qualificatif de parole vivante et éternelle. J'aime bien M. Twain qui dit parole vivante et permanente. Ah, ça j'aime. Parole vivante et permanente. Et puis, cette parole est faite de prescriptions. On va dire cela comme cela, de prescriptions qui, si elles sont appliquées à nos cœurs, sont la source de bonheur, de joie, d'équilibre, d'épanouissement, et nous donne d'avoir devant Dieu une grande assurance. Alléluia. Amen. C'est notamment le « il est écrit ». Vous pouvez lui dire, Seigneur, c'est écrit dans ta parole, donc moi je me suis approprié ta parole, il faut qu'elle se réalise dans ma vie. Si vous avez cette foi-là, et si vous faites cette démarche, peux vous dire qu'il y a des choses qui vont changer. Hein. Je puis vous assurer que des choses vont changer dans votre vie. Et puis, troisièmement, lui faire confiance. Tout se tient dans cette position de foi. Si vous en manquez, nous pouvons prier pour vous pour que cette confiance en Jésus se développe et vous permette d'obtenir le salut de votre âme, la guérison physique si vous êtes malade, la réponse à toutes vos questions existentielles, l'exaucement de vos prières, même les plus intimes, même les plus personnelles, voire les plus secrètes. Amen. On prie si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui a pouvoir de nous sanctifier et que tu nous as laissé, qui a traversé les siècles pour nous parvenir. Et nous voulons te dire merci pour ce miracle de la parole qui est présente, qui est vivante pour nous, permanente, comme je le disais, éternelle, sois béni, Père. Merci d'avoir été mon soutien pour en parler ce matin, avoir délivré ce message, que maintenant tu honores la foi de mes frères et sœurs qui mettront leur confiance dans cette parole et qui feront le pas de s'approcher du médecin que tu es pour être guéri, soigné, restauré, renouvelé, fortifié, rendu apte à poursuivre la route, voire pour un nouveau recommencement, car tout est possible avec toi. Tu demeures pour moi le Dieu des miracles, des prodiges et des guérisons en Jésus-Christ. Amen.
Je propose aux praticiens de faire un pas de foi, de s'approcher de la table.